Une PME, vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines, vous parlez anglais, chinois, hindi, vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
France Inter,
première radio de France.
14h sur Inter. Les dernières informations, Timur Özturk.
Des jets de peinture verte et rouge et des slogans hostiles. Raphaël Glucksmann, sorti du cortège du 1er mai ce matin à Saint-Étienne par une cinquantaine de manifestants, poursuivis dans la rue. Ces gens n'impressionnent personne et n'ont le monopole d'aucune lutte, assure l'eurodéputé et tête de liste PS Place Publique aux Européennes, qui dénonce des groupuscules violents et le résultat de mois de haine et de calomnie orchestrés par les insoumis. La compétition électorale n'autorise pas tout et ces méthodes sont écœurantes et dangereuses, insiste Raphaël Glucksmann, qui met nommément en cause Jean-Luc Mélenchon. Le chef des Insoumis assure désapprouver totalement l'agression de Raphaël Glucksmann, tandis que le Premier ministre Gabriel Attal dit se dresser toujours contre toute forme de violence en politique. En dehors de ce fait politique en marge des cortèges du 1er mai, la manifestation parisienne commence place de la République, déjà une quinzaine d'interpellations. Globalement en France, moins de participants dans les rassemblements. 3000 manifestants à Marseille ce matin selon la préfecture, 3000 à Strasbourg, plus de 2000 personnes à Besançon, à Tours entre 500 et 700 manifestants, 600 à Nice ou encore 800 à Cherbourg. On se souvient pendant la réforme des retraites il y a un an de la forte mobilisation des éboueurs, des poubelles entassées dans les rues de Paris. En ce 1er mai, la CGT des éboueurs parisiens annonce avoir déposé un préavis de grève pour toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les éboueurs réclament notamment une prime exceptionnelle de 1900 euros pour les agents sollicités lors des JO. 1er mai de meeting politique à l'extrême droite, Jordan Bardella, tête de liste RN pour les européennes, à Perpignan aujourd'hui, où il présente ses 34 premiers colistiers cet après-midi. Perpignan, mairie RN de Louis Alliot. Les États-Unis sont opposés à un assaut israélien sur Rafah, à Gaza. Le secrétaire d'État Anthony Blinken l'a répété aujourd'hui à Jérusalem au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le chef de la diplomatie américaine en visite pour tenter d'arracher une trêve entre Israël et le Hamas. L'Empire Mulier, soupçonné de fraude fiscale, les sociétés détentrices d'Auchan, le Roi Merlin ou Decathlon, plusieurs héritiers de cette grande famille mis en examen. L'enquête confiée depuis plusieurs années à des juges financiers parisiens se penche sur un montage financier qui pourrait permettre une minoration de l'impôt en France. La culture française perd un grand passeur, écrivait ce matin la ministre de la Culture Rachida Dati après la mort de l'écrivain américain Paul Auster à 77 ans d'un cancer du poumon. Auteur d'une trentaine de livres traduits dans une quarantaine de langues, il parlait français, avait vécu à Paris, mais c'est surtout New York, sa ville, qu'il a raconté tout au long de sa vie et de ses romans.
Franceinter.fr présente
Le code a changé.
Xavier Delaporte.
Aujourd'hui, la plupart de notre vie administrative se passe en ligne. Nos impôts, nos relations avec la CAF, tout ça se fait sur Internet.
Le code.
Qui a décidé cela ? Avec quelle idée du rôle de l'État et quelles conséquences pour les citoyens ? Si c'était un mot qu'il résumait, celui de l'État plateforme.
Le code a changé. Le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur franceinter.fr et l'application Radio France.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle ? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, 14h passées de 4 minutes. Tout de suite, la Terre au carré avec vous, Mathieu Vidard. Bonjour.
Bonjour Timur Özturk, à tout à l'heure.
Oui, bonjour, Sylvie de Bordeaux. 1,4 milliard d'euros ont été trouvés pour essayer de rendre la Seine nageable pour deux épreuves des Jeux Olympiques. Quelle utopie, quel gaspillage. Cet argent n'aurait-il pas été mieux utilisé pour les hôpitaux, pour l'enseignement ? pour les agriculteurs, pour l'écologie, pour le bien-être des Français. Je suis très en colère. Merci.
Bonjour la tête au carré, c'est Nicole de Cologne. L'article L424-10 du Code de l'environnement stipule normalement qu'il est interdit de détruire des petits mammifères. C'est une loi sur laquelle vient ce soir la Fédération nationale des chasseurs, dirigée par Louis Rennes, avec les adeptes de la vénerie sous terre. Pour information, la dite vénerie sous terre consiste à aller chercher avec des pinces métalliques les blaireaux et leurs petites familles, à les assommer avec ou les claquer contre les arbres. Bref, cette fédération des amis de M. Macron a, entre le 15 mai et le 15 juin 2023, opéré une pseudo-étude scientifique en catimini dans une vingtaine de départements français. Ils ont ainsi massacré près de 500 blaireautins, 443 pour être précise. Alors j'aurais qu'une remarque, une question. Est-ce que les lois françaises s'appliquent vraiment aujourd'hui à tous les citoyens et surtout aux membres du lobby des chasseurs? Un tel niveau de barbarie, cela donne vraiment plus envie de vivre dans ce pays qu'est devenu la France. Merci, au revoir.
Bonjour la Terre au carré, merci pour ce répondeur où l'on peut dire notamment ce qui ne tourne pas rond. J'ai besoin de vous faire part de mon vif et profond chagrin d'avoir découvert hier le 30 avril, sur la commune du Thor dans le Vaucluse, chemin des Estourants, la destruction totale de 200 mètres de haies qui s'élevaient sur environ 3 mètres. Dans ces très fructifères, elles accueillaient et nourrissaient des myriades d'oiseaux, d'insectes, de lézards, etc. et favorisaient toutes sortes de végétaux. Ces haies, sur un talus en retrait de la route qu'elles rafraîchissaient, se trouvaient le long d'un terrain de pommiers qui depuis 6 mois est rasé pour un projet immobilier. Y a-t-il quoi que ce soit que l'on puisse faire? Avait-il le droit? Je vous remercie la tête au carré, ce message comme une bouteille à la mer de la part de Claire. Merci.
Bonjour, c'est Eric de Melbourne. Par rapport au fait d'avoir de la végétalisation et des espaces naturels dans les villes, ici à Melbourne, entre les zones végétalisées et les zones très artificialisées, on peut avoir des différences de 10 degrés en plein été. Donc c'est vraiment très très important. En face de chez moi, on a un parc naturel par exemple, et c'est très très agréable, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Et aujourd'hui, mon garçon qui prenait son petit déjeuner sur le balcon a eu la chance d'avoir un kookaburra, donc un martin chasseur qui est venu passer environ une dizaine de minutes avec lui, c'était vraiment très très agréable. Voilà, bonne journée, bye bye.
Voilà, Melbourne, on écoute la Terre au carré au bout du monde. Merci pour votre message, Eric, et merci à vous aussi qui témoignez tous les jours avec beaucoup de sensibilité sur ce répondeur 01 56 40 45 45. Pastoralisme, à lui seul ce mot raconte un mode de vie dehors, des collines avec des troupeaux qui paissent suivant le rythme des saisons, c'est aussi le murmure des rivières de montagne, la nuit dans des cabanes et la silhouette d'une femme ou d'un homme qui mène son troupeau accompagné souvent de ses chiens. Mais le pastoralisme c'est aussi un genre littéraire, romanesque, dramatique, poétique qui trouve son origine dans l'Antiquité. À quoi ressemble le pastoralisme aujourd'hui? Au-delà d'un récit angélique et naïf, les chroniques de la vie en altitude sont aussi celles d'une réalité faite d'efforts, de travail, parfois de dangers. C'est ce que l'on découvre en lisant Pastoral, un objet littéraire original qui s'inscrit dans l'histoire des grands textes tout en proposant une version moderne et réaliste du pastoralisme. C'est ce que nous raconte donc ce livre dont on va parler avec nos invités qui sont avec nous cet après-midi en ce 1er mai, Violaine Béraud et Jean-Christophe Cavalin. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous, Violaine Béraud. Vous êtes ancienne éleveuse de chèvres. Vous allez nous raconter, surtout autrice d'une douzaine d'ouvrages, parmi lesquels Comme des bêtes ou C'est plus beau là-bas. Jean-Christophe Cavalin, vous êtes professeur de lettres à Aix-Marseille Université. Vous avez créé le master en éco-poétique et création littéraire. Ensemble avec la bergère Florence Debove, vous avez donc travaillé sur cet ouvrage publié aux éditions Wild Project, qui est un recueil dans lequel se raconte justement le métier de bergère et la vie de troupeau. On se retrouve dans un instant pour découvrir ces récits. Nous attendons bien sûr vos messages, pourquoi pas vos témoignages, pour dialoguer avec nos invités sur ce thème. La page de la Terre au carré et nos réseaux sociaux pour nous retrouver, mais aussi peut-être vos messages vocaux depuis la montagne en allant sur l'application France Inter. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et des nouvelles de la petite orque coincée dans un lagon au Canada qui ne voulait pas quitter sa mère morte à côté.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Maxime Goudard, aujourd'hui à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Un éleveur d'Arles nous avait dit « Près du Matibert, en Camargue, je crois que vous rencontrerez un berger qui lit beaucoup. » Au coucher du soleil, rentrant ses moutons, voici Maurice.
Et pourquoi vous avez choisi berger plutôt qu'un autre métier ?
Parce que c'est un métier, un vrai.
Qu'est-ce que vous avez aimé lire, Tangos ?
Oui, Tangos, non, faut pas, il vaut mieux pas en parler.
Il faut pas en parler, bon.
Qu'est-ce que les après, à 18 ans, là, j'ai commencé à lire. Il y a eu Rimbaud. Et puis la suite, c'est dire des poètes, quoi. C'était une révélation, et puis j'en ai découvert beaucoup de moi-même. On m'a pratiquement pas guidé. Et puis je suis arrivé à Chartres, tout simplement. Puis j'y suis resté, parce que... On va pas plus loin. J'ai toutes ces œuvres, pratiquement. J'y vais à fond parce que c'est essentiel, quoi. Tout se passe là. La nature à avoir, bien sûr, parce que ça fait quand même de l'ouverture. Mais en fait, il s'agit d'amener de l'ouverture ici, quoi.
Voilà cet archive de l'INA 1967 avec Michel Polak à l'époque et donc Maurice, ce berger lecteur de René Char, de poésie en général, avec cette poétique pastorale dont on va parler avec nos invités Evgeny Béraud et Jean-Christophe Cavalin à l'occasion de la publication de cet ouvrage pastoral chez Wild Project. Jean-Christophe Cavalin, vous le connaissiez, vous, ce berger, la Maurice, ou pas ?
Oui, bien sûr, l'émission est magnifique, les bergers philosophes, il y en a plusieurs, c'est très, très, ça m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pour la prose.
Parce qu'on retrouve exactement finalement ce que vous décrivez dans votre démarche, c'est-à-dire raconter ce qui se passe là, au fond, c'est ce qu'il dit ce berger là dans l'extrait.
Oui, on retrouve surtout une espèce de seuil d'indifférence entre l'agriculture et la culture. C'est-à-dire ce qui est la culture des champs et la culture des villes. Parce que normalement, la culture littéraire ou philosophique, c'est conçu comme la culture des villes. Et là, c'est très, très beau, cette émission. On s'aperçoit que non, il y a cultiver, ça vient au départ de la culture de la terre, enfin, de la culture d'un lieu. Et pour cultiver un lieu, il faut aussi le cultiver par l'imaginaire, le savoir, etc.
Et c'est exactement ce que fait ce berger en lisant ces poètes. Violaine Béraud, vous avez été sensible aussi à cette archive?
Oui, puis moi, j'ai entendu les cloches des bêtes derrière.
Ouais.
Moi, c'est les cloches qui, ouais. qui me sensibilisent surtout. Ouais. Je me dis qu'il y a vraiment des bêtes derrière.
Tout à l'heure, on a passé une pub avant que l'émission commence.
Oui, j'ai entendu bêler.
Il y a eu une brebis.
Il y a eu un bêlement.
Il
n'y
avait aucun rapport d'ailleurs avec les brebis, a priori, dans la
non,
pub.
Non, a priori, mais c'est étonnant. Enfin, on en reparlera, mais à quel point la brebis ou la bergère, enfin, ça devient quelque chose d'important. Et on met ça n'importe où, pour n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. J'ai juste entendu la brebis, je ne sais même pas de quoi parler la pub, mais je pense que ce n'était pas pour du fromage.
Oui.
Je ne sais même pas si c'était une brebis
un produit
ou
bancaire.
Quelque chose
d'inventé. C'est un produit bancaire, un truc comme ça. Donc de quoi vous énervez, concrètement?
De quoi, en tout cas, m'interroger. Oui.
Vous vivez dans les Pyrénées, toujours ?
Oui, je vis en Ariège, oui, dans la montagne.
À quel endroit ?
Je vis dans...
À quelle altitude ?
Je vis maintenant pas très haut, je vis à 800 mètres. Quand j'avais des bêtes, je vivais à 1100 mètres, dans le Biros, qui est une vallée très, très calme, parce que très peu touristique. Une des rares vallées des Pyrénées qui n'a pas été envahie par le tourisme. Et du coup, les vallées, je veux, sans aller sur un sujet brûlant, les vallées dans lesquelles on trouve pas mal d'ours.
Et c'est un sujet brûlant.
Et c'est un sujet très brûlant, ouais. En particulier pour les bergers et les éleveurs.
Pendant combien de temps vous avez été éleveuse alors ?
J'étais éleveuse pendant 12 ans.
12 ans.
Jusqu'à ce que cette vie que j'adorais, mais que je faisais dans des conditions très extrêmes et assez marginales, je suis pas du tout, ma façon d'élever n'était pas du tout représentative de ce qu'est l'élevage en France, mais alors vraiment pas. Mais j'avais fait un choix d'élevage très, très à la marge.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait sa singularité ?
Avec un tout petit troupeau. De bêtes de race rustique, c'est-à-dire les bêtes que normalement on nous déconseille absolument d'élever, puisque pas productives, puisqu'elles n'ont pas été sélectionnées et transformées pour faire des pis sur pattes, qui pissent du lait, il n'y a pas d'autre terme que ça. Donc moi j'avais des bêtes très résistantes, très rustiques, très joyeuses, très belles. La beauté a totalement disparu, on s'en fiche du physique de la bête, alors que pour l'éleveur c'est fondamental la beauté. Et je trayais à la main et pas à la machine. Je me souviens par exemple de quelqu'un dans une chambre d'agriculture qui m'a dit un jour, mais c'est sale de traire à la main. Mais c'est pas plus sale de traire à la main que de traire à la machine. C'est pas hygiénique, mais vous croyez que c'est hygiénique, vos tuyaux, voilà, tout ça.
Vous étiez informaticienne au départ, c'est ça ?
Oui, j'ai changé totalement de vie à 30
ans. Vous avez un drôle de parcours, hein. Et puis l'écriture quand même, qui vous a accompagné de bout en bout. Il y a eu la pause pendant l'élevage, c'est ça ?
Voilà, sauf souvent quand je suis en rencontre littéraire, on décrit mon parcours en disant « Violaine a arrêté son travail d'informatique pour aller élever des chèvres et écrire ». Et je dis « mais pas du tout ». J'ai arrêté pour aller élever des chèvres et j'ai arrêté d'écrire aussi. J'écrivais avant. C'est pas compatible.
On n'a pas le temps d'écrire là-haut.
On n'a pas le temps.
Et dans la montagne, c'est pas possible.
Moi, je n'ai jamais eu le temps avec la charge de travail que j'avais.
Ouais. Donc vous avez donné tout à vos chèvres.
Ouais, absolument
quand
tout.
Vous étiez avec elle, avec ce petit troupeau, et vous ne faisiez que du fromage, hein, c'est ça, hein.
Oui, je faisais que du fromage, mais je faisais que faire du pastoralisme, c'est-à-dire faire accompagner mes bêtes toute la journée pour les faire pâturer.
Jean-Christophe Cavalin, donc vous qui êtes professeur à Aix-Marseille Université, racontez-nous ce projet donc de pastoral qui réunit donc effectivement Violaine Béraud, ancienne éleveuse, mais autrice avant tout, et Florence Deboeuf qui elle est toujours bergère. Comment vous avez imaginé ça dans le cadre précisément de votre travail sur l'éco-poétique?
Oui, moi j'ai un travail qui essaie de rapprocher les formes de vie et les formes de livres, c'est un peu ça l'éco-poétique, et donc le problème de la bucolique, enfin la tradition bucolique de la poésie pastorale, ça a été très important pour former la culture européenne, et elle est morte un peu au moment de la Révolution industrielle. Le dernier grand poète pastoral d'ailleurs est mort pendant la Révolution française, il a été décapité, André Chénier. Et puis la Révolution industrielle a fait que l'exode rural, enfin le destin de l'homme s'est conclu dans la ville. Et donc bien sûr l'imaginaire pastoral qui était dans la poésie pastorale a peu à peu disparu. Et dans un moment où on parle de désindustrialisation, où on interroge les modes de vie urbains, c'est-à-dire on interroge surtout le caractère inhabitable des villes contemporaines, ça semblait... Moi, je trouvais ça intéressant de retravailler cet espace de forme qui est une forme du passé, qui pourrait d'ailleurs...
Et un passé très ancien, hein, parce que vous remontez loin, finalement, dans la tradition du récit pastoral.
Oui, la tradition du récit pastoral, c'est gréco-latin. Enfin, c'était vraiment le style moyen de la poésie gréco-latine. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer donc Violaine pendant un festival, le festival du Murmure du Monde dans le Val d'Azun. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, mais si on essayait d'écrire des pastorales, il fallait être deux, parce que les pastorales, ce sont des dialogues, enfin des combats de chants entre bergers, des battles de chants, disons. Et donc, on a cherché une autre personne, donc Florence Deboeuf, et puis on a fait une résidence avec le Murmure du Monde, et peu à peu, du coup, on a écrit ce texte, on a essayé, en fait, de façon expérimentale, essayer de voir comment on pouvait transformer un dialogue de berger, un dialogue de chants, en une espèce d'écriture contemporaine.
Sans en faire forcément un document du métier de berger, hein, Violaine Béraud, il y avait ça aussi, hein.
Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de livres qui sortent soit des récits de bergers, et surtout de bergères, c'est souvent féminin, soit des romans de plus en plus avec des personnages qui sont des bergers ou des éleveurs. Et moi, je lis à peu près tout ce qui sort sur ça, parce que ça m'intéresse, et souvent, ça me fait râler, parce que soit je trouve que c'est pas juste sur la réalité du métier, soit je trouve que ça pêche au niveau de l'écriture. Et nous, ce qu'on a eu envie de faire, ça paraît très prétentieux de dire comme ça, mais on a voulu essayer de faire quelque chose qui soit juste, c'est-à-dire qui dise la réalité du métier de bergère, en ce qui concerne Florence, et du métier... très marginal de petit éleveur de montagne tel que je l'ai vécu, mais de façon littéraire, en travaillant ça, c'est-à-dire que la langue a été vraiment retravaillée après à trois pour en faire un objet littéraire.
Ouais, mais vous, Jean-Christophe Cavalin, vous écrivez très peu au fond dans ce récit, vous vous effacez quasiment. Hein.
Oui, moi je sers de cadre. Enfin, on a introduit une voix, la voix d'une espèce de visiteur pour justement éviter cette espèce de plongée dans le rêve qui serait une plongée trompeuse où le lecteur serait directement dans le rêve de la pastorale. Il fallait un filtre pour montrer qu'il y a une vie contemporaine, il y a des animaux d'abattoir, il y a des animaux dans les eaux, etc. Et puis il y a des espèces de structures contemporaines. Et donc voilà, moi je sers juste de, comme dans les tableaux, quand il y a quelqu'un de dos au premier plan qui est le rôle du spectateur en fait, qui montre où il faut regarder. Oui. Donc voilà, c'est cette espèce de récit cadre donc, qui entoure le récit des...
Et vous aviez en tête Virgile, c'est ça? Parce qu'on parlait de ces auteurs antiques. Oui. Il y avait Virgile et les bucoliques, donc ça c'est moins 37 avant notre ère. Mm-hmm. Et donc vous vouliez refaire une sorte de bucolique contemporaine, c'était un peu ça le projet pour vous?
Oui, c'est tout à fait, oui, parce que les bucoliques de Virgile, il y a le même problème justement de crise de la vie urbaine, enfin de crise impériale, etc. Et donc cet idéal de quitter les affaires, etc. Et qu'on retrouve en ce moment, non pas comme un idéal de quitter les affaires, mais comme une nouvelle des formes de vie alternatives. Et ça me semblait intéressant d'essayer de réinterroger le caractère radicalement politique que pourraient avoir des pastorales contemporaines, et pas du coup un renoncement à la vie politique, parce qu'on est sous l'Empire, parce que la dernière bucolique l'image qu'on a dans l'Europe, c'est Marie-Antoinette et les bergeries
de Versailles. Oui. Voilà, c'est pas le même style.
N'a plus rien à faire, donc
C'est pas le même style, effectivement. Projet à six mains, donc avec ses textes courts, remplis de poésie et de réel. On va en parler dans un instant, parce que évidemment, ça nous permet quand même aussi de partir avec vous, d'embarquer dans la montagne, dans cette réalité du métier de bergère. Et c'est l'objet de cette Terre au Carré cet après-midi.
sortir ce soir-là. Fallait.
C'était Gwendoline sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
L'hiver est arrivé sur l'alpage de la Calame. Isabelle fait paître ses bêtes avant d'entamer la descente vers la plaine. Elle vient de passer ici 5 mois à 1400 mètres, seule avec ses brebis et ses chiens.
J'adore la montagne. Moi, je ne serai jamais à l'intérieur. Hein. C'est toujours l'extérieur, le dehors, même par tous les temps. Vous voyez, ici, pour la descente, il fait très mauvais temps. Mais bon, ça fait partie du métier de berger. C'est comme ça.
Ah ! C'est les bienvenus, bonjour, sur la droite. C'est les redescendre sur la gauche.
Elles entendent la voix, quoi. Elles connaissent notre voix. On est tout le temps avec. Alors, elles savent qu'il faut y aller, quoi. Il faut gueuler. Si on pouvait faire autrement, on resterait en haut, hein. Je vais vous dire, hein, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas, c'est tout.
Elle s'appelle Isabelle Geneste, bergère, rencontrée en 1996 par France 2. La vie quotidienne des bergères et des bergers, le pastoralisme cet après-midi avec ce livre pastoral qui sort chez Wild Project. On en parle avec deux de ses auteurs, Violaine Béraud et Jean-Christophe Cavalin. Cet extrait là qu'on entendait à l'instant, Violaine Béraud, ça vous parle évidemment parce que le temps, la météo, c'est vraiment votre environnement et votre quotidien absolu. Hein.
Oui. Et puis il faut être dehors, quel que soit le temps. Il faut s'occuper des bêtes, il faut les faire manger, il faut y aller.
Qu'est-ce que vous écrivez à ce sujet, justement, dans ce livre pastoral ?
La météo est détestable. J'avance vers la grange sous la pluie battante. Rapide coup d'œil au troupeau encore couché, j'imagine déjà la putain de journée. Les heures de garde dans ce déluge. Je serai mieux sous ma couette. Je cale dans un coin bidon et filtre. Je me redresse. Pas une chèvre ne vient. Je fais un pas vers la plus proche, elle se lève, s'éloigne. J'essaie une autre, même cirque. Les voilà bientôt toutes debout à l'autre extrémité de la grange. Elle me fixe sans bouger. D'abord, tu te calmes.
Avec ces chefs qui peuvent rendre fous les bergers. Hein.
C'est ce ah que... mais les bêtes et le troupeau, c'est ça peut
incroyable,
rendre fou.
Hein. Oui,
ça
surtout quand on en a plus de 500 dont
et
il faut s'occuper.
Même quand on en a peu, oui. Même quand on en a peu. Moi j'avais un tout petit troupeau, mais il y a une intelligence du troupeau. C'est impressionnant comment elles arrivent à communiquer entre elles. Et ça, par exemple, moi, je faisais la traite en liberté, donc des chèvres pas attachées, et si elles décident que je ne les trairai pas, elles le décident toutes ensemble. Comment elles font pour se le dire ?
Il y a une intelligence collective.
C'est collectif, c'est très étonnant.
Pour emmerder la bergère,
pour emmerder la bergère, puis pour faire entendre quelque chose, quoi. D'abord, tu te calmes. Vraiment, je l'entends. Et tant que je ne me suis pas calmée, Et dès que je vais me calmer, tout va bien, elles vont revenir vers moi et pas de problème.
Ouais. Donc il y a ce lien-là quotidien en fait, oui, aussi, avec ces personnalités, parce qu'elles ont toutes des personnalités, vous les nommez, elles ont un prénom.
Oui, dans le cadre, quand on a un petit troupeau comme ça, elles ont toutes des noms. On ne dit pas des prénoms pour les chefs, mais on dira, ou pour les bêtes, on dira des noms. Mm-hmm. Mais elles ont, elles ont des noms, elles ont des caractères. On connaît bien les caractères de chacune.
Vous vous souvenez encore de leur nom ou pas?
Oui, et alors moi j'ai arrêté l'élevage parce que j'ai eu une maladie assez embêtante qui s'appelle la maladie de Lyme et que j'ai été assez atteinte aussi neurologiquement. Et du coup, ma mémoire flanche un peu et je suis absolument désespérée de perdre quelques-uns des noms de mes chèvres.
Mm. Quels sont ceux dont vous vous souvenez?
Oh, je me souviens de, je parle là-dedans de Gargamel, de Vermicelle, de Too Light, de Blondine. Voilà. Oui, il y en a plein dont je me souviens.
Il y en a plein encore qui sont en mémoire. Jean-Christophe, avec donc Cavalin, avec ce récit là sur la météo, qu'est-ce que ça vous évoque vous précisément, ce travail d'écriture là que vous avez fait ensemble?
Oh, plein de choses. Oui, c'est vivre ensemble qui est le plus intéressant pour moi. Et ce qui a été super intéressant dans le livre, c'est de trouver des formes littéraires qui prennent en compte cette espèce de langage différent qu'on a avec ce qu'on appelle les langages interspécifiques. Comment on communique avec une autre espèce, c'est-à-dire par des signes, des cris, comment on lit une autre espèce, comment on lit des signes, on indice. Ce qui est très beau dans ce passage, par exemple, c'est qu'elle arrive, l'éleveuse arrive en traînant son corps à contre-cœur, et les chèvres lui rappellent qu'elles ont un corps toutes les deux, avec des mamelles, qu'on les traite pas n'importe comment, qu'on les touche pas n'importe comment. Et le fait de reconnaître cette espèce de réaction de no limit tangere, que ne me touche pas des chèvres, ça la rappelle au ciel que voilà, elle a un corps, enfin, c'est des animaux à mamelles. Moi, j'adore ce moment où c'est pas de l'animisme, elle les reconnaît pas en tant que personne, elle les rencontre en tant que personnes vulnérables qui ont des corps, ouais, comme elle, et c'est très beau, et tout le texte dit ça, et la dernière interlocution, calme-toi, on sait pas qui parle, si c'est elle qui se le dit à elle, les chefs qui le disent, enfin, elle ne parle pas, c'est pas comme dans les contes du chat percé, les chefs ne parlent pas, mais elle parle à travers la bergère.
Et la question du corps, Violaine Béraud, elle est absolument essentielle. Hein, quand on est bergère, oui. Et d'ailleurs, il y a aussi ce témoignage du corps qui s'assèche au fil de l'estive,
oui,
par exemple.
Oui, il y a un très beau passage écrit par Florence où elle dit qu'au fur et à mesure de la saison, le corps des brebis s'arrondit et le sien s'assèche. Et c'est vraiment ça. Et quand on élève ou quand on garde en étant dans des conditions de pentes raides, de météo difficile, forcément, il faut que le corps suive. Moi, mon corps a explosé au bout de 12 ans.
C'est pour ça que vous avez arrêté,
ah
d'ailleurs.
Oui, c'est pour ça
c'est
que
la fatigue
arrêté.
Absolue
c'est,
du...
C'est la maladie. La maladie, elle est venue parce que je ne voulais pas écouter la fatigue du corps, parce que je demandais trop à mon corps. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Et mon corps m'a complètement lâchée. Et je n'ai pas voulu entendre. J'ai fait traîner ça encore longtemps avant vraiment de plus pouvoir, que la douleur soit plus supportable. On demande beaucoup, beaucoup à nos corps. Et c'est important aussi de le dire parce que on a cette image idyllique de l'éleveur ou du berger.
C'est ça, et c'est ce qu'évoque le pastoralisme d'ailleurs. On a une espèce de folklore en tête en fait.
On a vraiment ce truc de folklore et qui est en plus... Je trouve que ce folklore, en plus, on le nourrit avec tout ce qu'on propose aux gens, c'est-à-dire les montées folklorisées des troupeaux en estive, toutes ces transhumances qui sont à but touristique, en fait.
Avec la petite flûte.
Avec la petite flûte et avec tout le troupeau. C'est vraiment... Enfin, on folklorise ce qui est un travail, qui devient un loisir pour les autres. Il y a quand même un problème de travail et de loisir face à face. L'estive des bergers, c'est leur lieu de travail et c'est le terrain de loisir des autres.
Oui, mais c'est aussi pour faire connaître ces métiers. Là, parce que
si on fait pas connaître cette façon là, enfin, moi je suis très tranchée sur ça.
Ah ouais,
non, c'est pas enfin, je suis peut-être trop tranchée, pardon, hein, j'ai très sale caractère, mais pour connaître ces métiers là, il faut passer du temps dedans, il faut aller les vivre vraiment, et pas juste deux jours quand il fait beau, accompagner des brebis sur la route.
Ça peut être le début de quelque chose, ça.
Ça peut être le début, mais ça fait pas connaître le métier. Ouais. Je suis pas d'accord.
Il y a d'ailleurs le lien avec les touristes, hein, parce que ça c'est une réalité aussi du métier de berger, et ouais, ça suscite aussi beaucoup d'agacement de la part des bergers, qui à la fois veulent faire connaître leur métier, mais qui aussi se retrouvent dérangés régulièrement.
Ouais. Et si on parle de littérature, puisqu'on parle d'écrit, je me permets de citer un livre, je ne connais pas l'auteur, mais je trouve le livre excellent sur ce point de vue-là. C'est un roman de Pierrick Bailly qui s'appelle La Foudre. Dans La Foudre, il y a un des personnages qui est un berger et il y a vraiment cette relation aux randonneurs, aux touristes. Et c'est d'une justesse absolue et c'est rare dans la littérature contemporaine.
Et Jean-Christophe Cavalin, vraiment, l'objet de ce projet, c'était de désangéliser quasiment le pastoralisme, hein, et d'en faire quelque chose de, encore une fois, ancré dans le réel, hein.
Oui, c'était en fait de rapprocher pour moi la littérature de véritables formes d'existence. C'était ça en fait le plus important pour moi. Et surtout, c'était comme témoignage qui est très très beau avec Violaine et Florence, c'est qu'en fait elles vivent dans un lieu et elles imaginent ce lieu. Elles n'imaginent pas vivre ailleurs et leur imagination ne crée pas des mondes contrefactuels, oui, ou imaginaires, des mondes fictifs. Elles surinvestissent.
Et il y a une grande joie à être, exactement, là dans ce lieu. Hein.
Et il existe psychiquement, il existe culturellement, il a des faits, il a des présences, du coup, ça rappelle vraiment les peuples autochtones dont l'imaginaire vraiment nourrit leur écologie et ne se nourrit pas d'espace qui n'existe pas. Enfin, la fiction, ça n'existe pas dans ces histoires premières. Et là, on a la même chose. Les fictions, c'est la roche, le rocher d'à côté, ça peut être quelqu'un, les chefs, c'est des personnes. Et c'est très beau de voir un espace qui est investi par un travail, par le corps et par la tête, par l'imagination. C'est le contraire de Anao qui travaille l'aiguille et puis rêve à une autre vie. C'est totalement différent.
En tout cas, on est très heureux d'en parler avec vous cet après-midi en ce 1er mai avec un dessin de couverture qui est signé d'ailleurs de Florence Debove, qui fait des très beaux dessins et qui signe donc cette couverture chez Wild Project. On se retrouve dans un instant.
France Inter, la Terre au carré.
Et c'est l'heure de passer au vert, Camille Cronier.
Et souvenez-vous des appels de cette petite orque que je vous faisais entendre il y a un mois tout pile, le 1er avril. Un petit mâle de 2 ans qui appelait donc sa maman en faisant des ronds dans l'eau à proximité du cadavre de celle-ci. Et oui, parce que sa maman était morte après s'être retrouvée coincée dans un lagon à l'ouest du Canada, sur l'île de Vancouver, coincée sur un tas de petits rochers, une sorte de banc de cailloux.
Oh, poor girl. That's so sad.
Une mobilisation énorme s'était mise en place avec tout un tas de techniques et de tentatives vaines pour tenter d'attirer vers la sortie du lagon et la pleine mer l'orque survivante baptisée Kwisais, qui veut dire courageux petit chasseur dans la langue des Eatesat, le peuple autochtone. Même le premier ministre canadien Justin Trudeau s'était exprimé. Il suivait cette déchirante histoire et était inquiet comme tout le monde. C'est vous dire l'ampleur que le truc avait pris. Et donc, si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que...
She's free. She's in the open ocean now.
Libérée, délivrée, désormais. Moi, j'étais obligée. Hein. Vous allez donc,
non,
comme
vous
n'étiez
pas obligée, en fait.
Toute la journée, de rien. La petite orque est libre, oui. Elle a réussi à quitter le lagon d'elle-même. C'était vendredi à marée haute. Elle a pu franchir le banc de sable après 35 jours là-bas. Ce monsieur qui a participé à toutes les opérations était juste à côté sur un petit bateau.
On l'a escorté jusqu'au large ce matin. Elle nous a dit au revoir et elle a continué d'avancer sans se retourner.
Alors, si vous pensez qu'ils en font un poil trop, je vous rappelle que les orques sont très très importantes pour la communauté Eatesat. Elles se seraient réincarnées en loup puis en humain, donc un petit peu leur mère à tous, quoi. D'où la joie très solennelle des habitants témoignant à la télévision canadienne.
Very happy day.
Felt like I wanted to jump and dance and...
Il voulait sauter, danser, pleurer. Mais ce n'est que la première étape du soulagement parce que commence désormais une autre aventure, et pas des moindres pour le courageux petit chasseur. Avoir assez d'énergie pour nager en pleine mer, se nourrir aussi, hein, parce que normalement les orques restent des années auprès de leur mère. Mais lui, ces dernières semaines, il a montré quand même du potentiel. Il a mangé tout seul et on l'a même vu sauter, genre tout content. Mais surtout donc le défi, se faire adopter par sa famille éloignée. Alors là, c'est pas gagné, comme l'explique l'un des responsables sur place.
On doit encore déterminer comment reconnecter l'animal avec son groupe familial, parce qu'on ne les a malheureusement pas vus depuis 2 semaines. Et personne ne sait exactement où ils sont. Donc c'est très difficile de dire combien de temps ça pourrait prendre.
Alors les hydrophones ont pu enregistrer les appels de la petite orque qui se dirigeait vers le large. Mais même si elle retrouve son groupe, une autre question va se poser aussi, soulevée par ce spécialiste des mammifères marins.
Même une fois réunis, on ne sait pas du tout si le petit va être adopté. Est-ce que sa grand-mère, par exemple, va prendre cette responsabilité? Pour l'instant, personne ne le sait.
Et voilà, le saura-t-on jamais seulement. Parce que les équipes ont choisi de ne pas poser de balises sur l'orque pour ne pas la stresser plus, après toutes les semaines qu'elle vient de subir. Peut-être donc qu'on ne la reverra pas. En tout cas, consigne a été donnée à tous les bateaux, et donc tous les humains, de ne désormais plus s'en approcher s'ils croisent son chemin.
Merci beaucoup Camille, c'est à réécouter sur franceinter.fr.
Jean-Christophe Cavallin, voyez-vous de l'éco-poétique dans cette histoire?
Sans doute, elle peut-être un peu moins d'après moi.
C'est tout. C'est important. Non, mais il y a une importance pour ce peuple autochtone de l'Ouest canadien là.
Qui, oui, non, mais c'est le fait de mettre en scène le sauvetage d'une petite orque, enfin, que ça devienne il y a quelque chose de violent, je trouve, en fait.
Qu'est-ce que vous trouvez violent, en fait, hein? Bah le spectacle, en fait, autour
oui,
de ça.
Ça me fait penser à un film américain avec un.
Et moi, si je peux,
Violaine Béraud.
Si je peux rebondir, pardon. Moi, je m'interroge toujours sur. On va parler beaucoup de ça, et c'est très bien qu'on en parle, et ok. Mais nous, dans notre quotidien de berger ou d'éleveur, on vit en permanence des petites choses comme ça avec nos bêtes. Alors, c'est pas du sauvage, c'est du domestique. Mais on a des mères qui meurent, par exemple, et un petit dont il faut s'occuper. On a des bêtes qui se blessent, qui souffrent. On a des attaques de prédateurs. Et j'ai l'impression que on fait plus facilement pleurer avec une petite orque qu'avec un petit agneau ou un petit veau. Et pour moi, il n'y a pas d'échelle de valeur. Quoi. C'est juste ça que je veux dire. Je trouve normal et l'orque est importante pour ces peuples-là. Mais là, on n'est pas un de ces peuples-là. Nous, on est en France, là.
Et
à Paris.
Par exemple, quand vous entendez le Premier ministre canadien s'exprimer sur cette histoire, pour vous, quand vous parliez de violence d'ailleurs, ça, c'est le pire, entre guillemets?
Non, c'est la récupération, moi, qui me gêne toujours.
Donc vous êtes en train de me dire, j'aurais pas dû faire la chronique, quoi.
Non, je dis pas que vous avez. Je dis peut-être que il faut pas uniquement parler des animaux qui sont loin de nous. C'est-à-dire que les orques, enfin, en tout cas pour moi au fond des Pyrénées en plus, l'orque c'est vraiment un animal exotique, quoi, presque, enfin, exotique au sens très très loin de moi. Mais dans mon quotidien, quand j'étais en élevage, il y avait aussi des choses comme ça, soit avec mes animaux domestiques, soit avec les animaux sauvages que j'ai autour de moi.
Mais c'est pas pour autant. On va parler de l'orque. On en parle aussi. On parle de l'orque, mais on peut aussi parler du reste.
On va pas parler beaucoup des petits marcassins. Moi, autour de moi, il y a des petits marcassins, il y a des petits de la martre, des petits. Il y a des animaux dont j'entends pas beaucoup parler parce que c'est. On écrase des hérissons sur la route, on tue des blaireaux avec nos voitures, hein, et il devient quoi, le petit sans sa mère, le petit blaireau, et ça c'est tout le temps.
Et ça on en parle
aussi. Chez nous.
Ouais.
Pardon, hein, je veux pas du tout le dire contre vous, mais je dis en règle générale, je dis pas par rapport à votre chronique là, mais en règle générale, je trouve qu'on va chercher toujours loin ce qu'on a aussi chez nous. Et pourquoi on ne s'interroge pas chez nous sur ça?
Ben c'est pour ça qu'on vous invite.
Voilà.
C'est l'objet de ce livre pastoral en ce 1er mai sur France Inter.
Watching all these fires burn, I'm waiting.
Paradise, c'était Norah Jones sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Voilà, installez le lit. Et voilà, c'est juste manière de ne pas être par terre. Quoi. C'est juste un abri, comme vous pouvez voir, il y a 9 mètres carrés. 10 mètres carrés maximum.
Nicolas Capou monte une ou deux fois par semaine surveiller et soigner ses 200 brebis. 1h30 de marche pour accéder jusqu'à l'estive.
Quand on monte en plus, c'est quand souvent il ne fait pas très très beau. Parce qu'en bas, on a le foin à faire. Donc on en profite justement quand il ne fait pas très beau de monter. Et souvent, les conditions sont limites ou orageuses.
Et là ?
Et là, on pourra se réfugier un peu.
France 3 Occitanie, en juillet 2018. Nicolas Capou, berger pour ce livre pastoral cet après-midi chez Wild Project.
Il n'est pas berger, il est éleveur, si je peux me permettre. Je ne le connais pas, mais ce qu'il a dit, c'est important pour moi la distinction.
Quelle différence vous faites entre les deux ?
Le fait de monter et de redescendre comme ça ?
Il a dit dans l'extrait, je monte voir mes bêtes, je fais le foin en bas et je monte voir mes bêtes. Et la cabane, j'y dors quand je monte voir les bêtes une fois par semaine, je crois qu'il a dit.
Absolument, une à deux fois par semaine.
Et c'est son troupeau, c'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle dans notre vocabulaire. Donc il est éleveur, il a un troupeau qu'il met en montagne et donc lui il n'a pas de berger salarié. Florence Deboeuf qui écrit avec nous est bergère salariée par exemple, lui il n'a pas de berger donc ça veut dire qu'il monte voir son troupeau une fois par semaine.
Voilà, donc il a cette cabane quand même qui peut l'abriter, voire dormir à la Belle Étoile. La cabane aussi, c'est un des protagonistes de ce récit. Hein.
Oui, la cabane c'est fondamental pour le berger en estive. C'est quand même le lieu où il peut se reposer, où il peut se faire à manger, où il peut se mettre à l'abri de temps en temps. C'est d'ailleurs un problème sur certaines estives où les cabanes sont très loin. Enfin, ça fait faire des parcours énormes pour revenir à la cabane. La cabane, c'est aussi le lieu de vie. Moi, ça a été et c'est toujours mon lieu de vie de tous les jours. Et là aussi, on a une grande mode autour des cabanes. Sur les tables des libraires, je vois plein de livres sur les cabanes.
Oui, t'as cabane
chic.
Puis
les gens veulent venir en cabane, en été, en vacances, ou en yourte.
Ça dit quoi de notre...
Ça dit un besoin sans doute d'être au plus près de la nature, au plus près d'une vie simple, mais pour 8 jours ou pour 10 jours.
Parce qu'il faut vivre avec peu d'électricité.
La réalité d'une vie. Enfin, moi, je vis pas juste la saison d'estive. Je vis en permanence dans une cabane, c'est-à-dire sans être relié à l'eau courante, sans être relié à l'électricité, avec un peu de solaire pour avoir un minimum d'électricité, avec donc pas de douche, pas de frigo, pas de un accès à pied, pas en voiture. Donc, il faut tout monter sur le dos, dont l'eau potable. C'est particulier la vie en cabane, ça veut dire que quand il fait froid, on sent la température, la différence de température entre le dehors et le dedans dès qu'on arrête de chauffer, elle est très faible. C'est un choix de vie particulier que moi j'aime, mais qui est très rustique.
C'est évoqué d'ailleurs aussi avec le troupeau, c'est-à-dire qu'on essaie de faire de la chaleur, parce qu'évidemment, affronter le froid, c'est vraiment quelque chose de permanent quand la saison est là. Hein. Oui. Et que tout d'un coup, quand on a un peu de chaleur et que la porte s'ouvre à cause du vent, boum, tous les efforts sont perdus
en quelques secondes. Les cabanes peuvent être assez rustiques, oui, parfois. Ouais.
Message de Daniel sur franceinter.fr, accompagnateur en montagne dans les Pyrénées. Je partage entièrement l'avis de votre invité qui parle du spectacle que l'on fait du pastoralisme. Il est grand temps de détricoter l'image d'Épinal et de parler de vraie vie avec aussi les difficultés de ces métiers, en particulier en montagne, des comportements des néo-randonneurs qui ne connaissent plus suffisamment le milieu de la montagne et bien sûr l'histoire humaine qui va avec. Comment quand même on peut gérer, parce que c'est compliqué aussi de tout rejeter, de rejeter les gens du coup qui veulent venir passer des vacances, qui veulent venir voir les transhumances, qui veulent venir randonner. Il faut quand même un peu ouvrir la porte, non ?
Oui,
sinon,
oui,
il y a une opposition, quoi.
Absolument, il ne faut pas les rejeter, mais c'est pour ça aussi, pour moi, un texte comme le texte qu'on a écrit, c'est aussi pour faire entendre ce qu'est la réalité de nos vies. Il y a un passage dans ce texte où on s'est amusé à mettre en alternance des phrases que Florence entend souvent. Elle est oh la petite bergère, où il est le berger, elle a pas des bras bien costauds la petite bergère, oh j'ai un cousin célibataire, enfin voilà des choses comme ça qu'elle entend en permanence, et on a croisé ça avec des choses que moi je disais en permanence, non on vient pas assister aux naissances, non on touche pas les bêtes, non on rentre pas dans le troupeau. C'était important je pense pour nous, pour Florence et moi, et sans doute aussi pour Jean-Christophe, même s'il n'est pas dans le métier de berger ou d'éleveur, de faire passer ce message-là, qui sont des choses qu'on nous dit tout le temps et que nous, on doit tout le temps dire pour que arrêter avec ça et ayons une communication plus simple et plus naturelle.
Jean-Christophe Cavalin, ça dit aussi quelque chose de notre déconnexion, au fond, à un milieu comme ça, vraiment, dans la nature, quand on arrive de loin et qu'on a les mauvais gestes, en fait.
Oui, les mauvais gestes, c'est un espace partagé. Donc, il y a les écolos qui veulent du wild, qui veulent du sauvage, qui veulent de la méditation, enfin, de la promenade contemplative dans un univers complètement sauvage, où c'est pas de la montagne à vache.
Se ressourcer.
Oui, ou non, il y a une vraie interrogation, une vraie fétichisation du sauvage, parce qu'on le détruit tellement qu'on a besoin de le réparer symboliquement comme mythe, le mythe du sauvage, et donc parfois le rencontrer. Et puis il y a les gens, en effet, qui viennent faire du tourisme et qui veulent une aire de jeu. Mais c'est intéressant, en effet, comme vous dites, que ça reste un espace. Comment on peut partager ça? C'est pour ça que c'est si intéressant, les cabanes, parce que les cabanes, c'est pareil. Nous, on vit dans des constructions, dans des moellons, comme dit Georges Sand, qui sont complètement isolés de l'extérieur. Alors que ces cabanes communiquent avec l'extérieur, c'est intérieur-extérieur, c'est une façon d'habiter un lieu et pas d'avoir construit un lieu, une chose qui exclut le lieu naturel, etc. Et donc c'est exactement ça, c'est ce problème de communication, il faut créer quand même un intérieur, mais rester en dialogue avec le lieu, avec les gens du lieu, les êtres du lieu, les bêtes du lieu, vous voyez tous. Et pour la littérature, par exemple, c'est très important, parce que la littérature, elle a construit des formes closes qui a exclu le réel. Et nous, là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réouvrir, de faire une cabane littéraire, c'est-à-dire de faire une espèce de construction littéraire qui reste ouverte aux influences du milieu, aux expériences des êtres, animaux, enfin, bêtes et bergères, etc. Voilà, donc en effet,
vous préférez parler de bêtes ouvert. Que d'animaux. Non, mais on peut souligner ça parce que c'est intéressant. Oui. Vous reprenez là sur le terme, mais.
Je vais me reprendre pour Violaine.
Parce que Violaine revendique ce terme de bête.
Puis j'ai posé la question tout à l'heure à Jean-Christophe avant l'émission en lui disant mais est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi nous, les éleveurs surtout, on dit toujours bête pour nos bêtes, je ne peux pas le dire autrement, pour nos animaux, mais je ne vais pas dire animaux. Et moi, je le vois en rencontre littéraire, parfois, quelqu'un me pose une question et les gens emploient toujours le mot animaux, parce que j'ai écrit un ou deux livres qui ont un rapport avec l'élevage.
Comme si bête était péjoratif.
Et bête, en fait, quand quelqu'un l'emploie, oui, comme si bête était péjoratif. Et quand quelqu'un l'emploie, en fait, il est souvent ou éleveur lui-même ou fils d'éleveur, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, ta réponse, Jean-Christophe, c'était que...
Oui, c'est le vocabulaire traditionnel, c'est le mot de proximité, c'est le mot de ceux qui vivent avec... c'est le bétail, en fait.
C'est le bétail.
C'est pas non plus les sangliers, tout ça, enfin, c'est vraiment le bétail. Et au contraire, l'animal, c'est vraiment une position qui est urbaine, en fait, c'est l'hyperonyme, c'est le nom de gens pour tout, et puis il y a les bêtes qui est le nom singulier, comme un nom de patois quasiment. Enfin, c'est le nom que les gens emploient. Et maintenant, il y a l'humanité environnementale qui dit les animaux non humains.
Ça, on en parlait hier d'ailleurs.
C'est terrible parce que les chèvres et les brebis sont des animaux, on peut pas dire que ce sont des animaux non humains.
Ils sont pas humains, ils sont pas de l'espèce humaine.
Oui, mais ils ne sont pas non plus naturels. Ce sont des animaux qui sont humanisés, qui ont vécu, qui ont coévolué avec l'homme pendant des millénaires.
Donc des animaux domestiques
Non, ce ne sont pas des animaux domestiques vraiment non plus parce qu'ils vivent en extérieur.
On aurait dû vous inviter avec Philippe Descola hier.
Il y a quand même une forme de domestication. C'est pas des animaux de compagnie, mais c'est des animaux domestiques.
Non, ce sont des animaux, enfin domestiques. Sont dans une maison, en stabulation, c'est tout à fait différent. Les animaux qu'on va chercher le matin, il faut pister les crottes pour les retrouver, pour retrouver le troupeau dans la montagne. C'est comme ce que dit Stepanov sur les éleveurs de rennes. Mais ils ne les domestiquent pas complètement. C'est-à-dire, ça reste un consentement. Il faut les faire revenir. Enfin, il y a une relation qui n'est pas une relation avec quelque chose de maîtrisé.
Je pense que la limite entre le domestique et le non-domestique est assez floue. Ouais. Assez fluctuante et que ça dépend vraiment du type d'élevage. Oui, si on prend les éleveurs de rennes, c'est vraiment très très proche du sauvage. Et nous, plus on va être sur du pastoralisme, c'est-à-dire de l'élevage très extensif, plus on va laisser les bêtes revenir à des choses un peu sauvages, même si elles sont pas sauvages, tout en les ayant domestiques. Moi, je pouvais traire mes chèvres à la main, il fallait bien qu'elles acceptent, et je les traiais en liberté. Donc, elles acceptaient ça, mais en même temps, elles avaient un côté très sauvage.
Et quand elles vous disent de vous calmer, c'est aussi ça, quand même. Voilà, il y a quand même une compréhension de l'humain qu'elle a en face de lui.
Alors que sur des races qui vont avoir été très, très sélectionnées, très transformées par l'homme, ben là, elles n'ont plus la place pour penser quoi que ce soit, quoi, elles n'existent plus.
Question de Gilles, notre auditeur numéro 1 sur franceinter.fr. De plus en plus de bergers s'installent en plaine pour pâturer des espaces naturels, par exemple le long de la Loire, peuvent aussi pâturer dans des vignes. Ce sont souvent des bergers sans terre qui déplacent leurs animaux ou leurs bêtes dans le paysage et font donc du pastoralisme en plaine. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux usages, ces nouvelles pratiques?
Ah mais moi je trouve ça très bien, c'est très bien. Il faut qu'il y ait, de toute manière, il faut qu'il y ait des petits troupeaux partout et dehors.
Il ne faut pas forcément une montagne pour faire du pastoralisme.
Non, il ne faut pas forcément une montagne. Moi je suis de la montagne, mais le pastoralisme n'a rien à voir avec la montagne. Le pastoralisme, c'est faire paître, c'est dehors.
Oui, puis c'est pas tellement nouveau. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, c'est le meurtre d'une bergère qui était à Montparnasse, enfin, qui était vraiment dans le périurbain.
Autre question.
Oui.
Étienne nous écrit « Je suis berger salarié depuis 4 ans. La montagne est belle quand il fait beau, mais c'est aussi une zone de non-droit. Conditions salariales et logements indignes pèsent sur le quotidien le travail des bergers et des bergères. Heureusement, la précarité n'est pas une fatalité. Les gardiens de troupeaux s'organisent pour que la montagne ne soit plus une zone de non-droit. » C'est vrai, ça, il y a un mouvement en place?
Oui, alors moi, je n'étais pas bergère, donc je ne suis pas très bien placée pour parler de ça, mais ils se fédèrent entre eux, c'est sûr, pour essayer d'avoir des droits,
Il y a des abus, quoi. Enfin, ça, vous avez.
Ah ben, des abus, il y en avait historiquement énormément. Et je pense que maintenant, on essaie de travailler pour que ce soit mieux. Mais je ne serais pas la mieux placée. Et d'autant plus. Enfin, moi, j'étais éleveur, je n'étais pas bergère. Et puis, les bergers se battent pour avoir des jours de congé, etc. Et Florence, par exemple, elle ne descend jamais. Elle ne prend pas de jours de congé.
Ouais.
Donc, après, c'est des choix personnels aussi. Mais elle va négocier un bon salaire. Il y a un passage dans le texte où elle parle de son salaire, elle négocie parce qu'elle donne sa vie, elle donne 4 mois à ça totalement. Donc il faut être bien payé.
Qu'est-ce que c'est avoir un bon salaire quand on est bergère?
Je ne saurais pas vous le dire. Parce que, alors moi, pardon, mais sur ça, je suis trop décalée. Et là, vous ferez un jour une émission avec Florence et elle vous répondra à toutes ces questions.
On voulait l'inviter, mais elle travaillait aujourd'hui, évidemment. Elle était très occupée.
Elle répondra pour toutes ces choses-là. C'est pas que je ne veuille pas y répondre, mais je ne connais pas. J'étais éleveur.
Jean-Christophe Cavallin, sur l'intérêt de proposer donc cet objet littéraire autour d'un pastoralisme contemporain, je ne sais pas comment il faut le dire, il y a des sujets intéressants aussi qui s'invitent évidemment dans les récits des éleveuses et des bergères, c'est la question du productivisme par exemple. Et là, on est en plein dans un sujet ultra-moderne, qu'on n'imagine pas d'ailleurs dans un récit de pastoralisme.
De productivisme, c'est-à-dire
D'avoir des animaux qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont là pour pisser du lait, quoi.
Mais nous, on n'est pas justement en productivisme. Hein.
Oui, absolument, c'est ce qui est dénoncé, précisément,
oui,
et c'est ce qu'on découvre dans cette réalité aussi, qui est celle du métier.
Oui, parce que tout pousse à produire. Vous allez dans les chambres d'agriculture, regardez, à chaque fois, je vais me faire plein d'ennemis, hein, mais c'est pas grave. Hein, toutes les manifestations d'agriculteurs, au départ, ils y étaient tous, les agriculteurs, enfin, peu à peu, ils y étaient tous, quel que soit le type d'agriculture, mais en fait, ce qui est donné au bout, c'est surtout, il faut grossir encore plus, et il faut produire encore plus. Moi, je suis désolée, j'ai levé des chèvres d'une race, qui est la race pyrénéenne, qui est presque interdite à l'élevage, enfin, elle n'est pas interdite à l'élevage, mais elle est très très déconseillée. Ou alors, il faut avoir un énorme troupeau, parce que ça produit très peu de lait.
Donc, c'est pas rentable.
C'est pas rentable, mais moi je dis, si, ça peut être rentable, ça fait du meilleur fromage, et puis il faut les nourrir. Pour que le lait soit bon, il faut aller nourrir les bêtes dehors, il ne faut pas donner du grain aux bêtes, ou du granulé, pire encore, il faut aller...
Sauf que votre fromage, vous allez le vendre quasiment clandestinement?
Ah mais moi j'étais obligée de tout faire clandestinement parce que très vite j'ai refusé les normes et ce qui était imposé me paraissait totalement aberrant.
Sur l'hygiène par exemple?
Ben sur le fait que tout pousse à grossir, à être gros pour être aux normes. Plus vous avez de bêtes, plus c'est intéressant d'être aux normes, quoi. Quitte à faire des gros travaux, faut avoir plus de bêtes, avoir plus de bêtes pour produire plus, toujours pareil. On pourrait faire beaucoup plus simple, on pourrait faire, alors moi je le faisais clandestinement.
Mais on est obligé d'être clandestin, c'est ça qui est incroyable quand même.
On est obligé, oui.
Si on veut penser les choses à une échelle plus modeste.
Et on croit qu'on se met clandestin parce qu'on veut mal faire le travail. Mais moi, je ne me mettais pas clandestine pour mal faire le travail. Mon fromage se vendait, je ne pouvais pas le tenir, mon fromage. Et ce n'est pas parce qu'il était moins cher que les autres, il était au même prix que les autres, mais parce qu'il était bon, parce que mes chèvres allaient manger dehors tous les jours. Et donc, le fromage n'a pas le même goût au printemps et à l'automne, mais pas du tout, parce que ce qu'elles mangent n'a pas du tout le même goût. Et si vous donnez tous les jours les mêmes granulés aux bêtes, le goût du lait, il va pas changer, lui.
Jean-Christophe Calin, vous voulez rebondir?
Oui, non, je veux ne parler que du côté littéraire. C'est ce qu'on a, enfin, c'est aussi sur cette ligne qu'on a travaillé ensemble, c'est sur une ligne décroissante dans le style pour éviter justement l'hypertrophie des formes littéraires, du caractère littéraire du texte. Et donc, on a beaucoup travaillé sur, on a travaillé par fragments. Et à chaque fois, on essayait justement de revenir vraiment à des formes les plus maigres possibles. Enfin, les plus, pour qu'il n'y ait pas, enfin, qu'il n'y ait pas une espèce de, d'écran littéraire ou d'écran de la forme ou d'écran du geste d'auteur.
Donc, vous avez travaillé à l'os, quoi. Vraiment,
oui, on a travaillé parce qu'on s'appelle Via di Levar, en enlevant, comme l'un sculpteur, en enlevant sur le bloc du premier fragment, de la première version, du premier jet, disons, première traite, et on a, en essayant d'enlever, de reprendre vraiment, d'arriver à la forme pure du geste, ou de l'épisode, ou de l'anecdote, en se centrant vraiment sur ça. Et du coup, il y a une espèce de décroissance du littéraire, ou de l'hypertrophie formelle dans le texte, sur lequel on a beaucoup travaillé, en écho avec le travail de Violaine et de Florence.
En 2021, vous avez publié Vallée Noire vers une écologie du récit, dans lequel vous enjoignez la littérature à sortir de son exil inutile. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire?
En des termes simples.
Oui, en des termes simples. C'est compliqué d'être simple dans ce cas-là. C'est très simple, disons. C'est-à-dire que les collectifs autochtones, donc les peuples premiers, se servaient de l'imagination, des mythes, etc., pour créer de la relation avec leur milieu. Qu'il était angoissant, etc. Donc, il divinisait pour pouvoir avoir un dialogue, faire des offrandes, etc. Et donc, la faculté imaginaire, normalement, était faite pour entrer en relation. Ne serait-ce qu'entrer en relation avec la bête qu'on chasse, par exemple, par les chamans, par les voyages chamaniques. Et donc, toute l'imagination, c'était une façon de traiter avec son écologie, avec ce qui faisait son milieu. Et puis, peu à peu, on a anthropisé son milieu. Donc, le milieu a fait moins peur parce qu'il a été humanisé. On l'a géré, maîtrisé. Et donc, l'imagination s'est retrouvée au chômage. Et donc, elle a créé des mondes imaginaires, contrefactuels, de la fiction romanesque en particulier. Et du coup, ça a été cet exil vide du beau, de beaux objets littéraires, mais qui n'avait plus rien à voir avec des modes de vie, avec personne. Et...
Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut remettre l'environnement au centre du récit et de la critique littéraire.
C'est-à-dire, si l'imagination ne s'applique pas à sa vie, à ses formes de vie de proximité, alors on se fout de cette vie de proximité, et donc on endommage sa proximité. Parce que, en fait, on s'en fout, on rêve de paradis fictifs. Donc, on peut vivre dans un boui-boui, et d'ailleurs même la production de beaux paradis participe à la façon dont on abîme ces milieux de proximité, alors que si bien sûr on imagine, on se projette sur des choses qui sont autour de nous, on a tendance à y faire attention, à les respecter, à avoir une attitude envers elles qui est protectrice et esthétisante.
Et pastorale, Violaine Béraud, c'est une illustration précisément, exactement, de ce que vient de nous décrire Jean-Christophe Cavalin.
Oui, oui. De toute manière, l'écriture du livre, on a essayé de faire qu'elle soit... La forme du livre doit coller avec le fond du livre. C'est ce que j'aime en littérature.
Et je renvoie sur Pastoral, qui paraît donc chez Wild Project. Merci beaucoup d'être venu depuis vos montagnes. Merci. Nous parler de ce travail. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à vous.
Vous en connaissez beaucoup, des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment? Pas sur des nouveautés qui datent de piou. Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1 500 € seulement. Moins de 1 500 € la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
France Inter, première radio de France.
Demain, le microbiologiste Philippe Sansonetti sera à ce micro.